Sing now, muse, I won't be scared. She's wearing flowers, not snakes up in her hair tonight. And love, we've been around before. We washed up on the old shore, but it's new tonight. It's only light, she said, but we are liars to be free. We'll steal a light to see. The hour falls, we fall to dance. The sirens and the marching bands sing. It's nothing but chance tonight. Billion ones and many a few, when everyone I never knew, they're here tonight. It's only light, we say, but we are liars to be free. We're still a light to see.
Être de mauvaise humeur après ça. La chanson s'appelle Still the Light et le groupe s'appelle The Cat Empire.
Et je commence avec la lecture de la critique de l'œuvre de Catherine-Anne Toupin, pièce de théâtre qui a pris l'affiche cette semaine à la Licorne, La Meute, donc un texte de Catherine-Anne Toupin, mise en scène par Marc Beaupré, production du Théâtre de la Manufacture, et c'est présenté jusqu'au 17 février. Disant que Catherine-Anne Toupin nous tenait en haleine, c'est un texte signé Christian Saint-Pierre dans Le Devoir. Deux décennies à espérer que l'auteur d'à présent jette à nouveau ses lumières dans les abîmes de l'âme humaine. Commençons donc par affirmer que l'attente n'aura pas été vaine. La Meute est un texte bouleversant, courageux, percutant, en même temps que d'une finesse admirable. Pour nous entraîner sur le territoire de la persécution à la rencontre d'une violence inouïe, tout en évitant la caricature, le manichéisme qui l'attendait pourtant à chaque détour, l'auteur s'est assuré que le portrait d'ensemble présente les nuances nécessaires, que ses personnages soient pétris de paradoxes, que ses situations soient d'une complexité vertigineuse, que le récit ne cesse d'emprunter des voies nouvelles. Quand il s'agit de nous tirer le tapis sous les pieds, Catherine Anne Toupin n'a pas son pareil. Après avoir conduit toute la nuit, Sophie, interprétée par Catherine Anne Toupin, débarque chez Martin, Guillaume Cyr et Poustouflant, et sa tante Louise, Lise Roy, dans un coin reculé, pour louer une chambre. La jeune femme est dans un piteux état. Mise à pied par son employeur, hantée par des paroles terriblement injurieuses, elle a besoin de prendre un peu de recul. En quelques jours, l'alcool aidant, Sophie va se lier à ses hôtes d'une manière totalement inattendue. On pourrait difficilement en dire plus sur l'intrigue sans en dire trop. On se contentera donc d'affirmer qu'elle est implacable, parsemée de renversements ahurissants. Il y a beaucoup à parier que les dramaturges québécois ne font que commencer à dépeindre les dérives de l'Internet, ces atteintes à la vie privée dont la perversité ne cesse de croître. Trolling, flaming, doxing, fat-shaming et revenge porn, le cyber-harcèlement prend des formes et des proportions qui glacent le sang. Avec des mots justes et des images fortes, des gestes terriblement crédibles et des situations souvent insoutenables, des personnages abjects sans être monstrueux, Catherine Anne Toupin nous oblige à respirer l'écœurant remugle que dégagent les bas-fonds du web. Dans cette matière, anxiogène à souhait, Marc Beaupré est comme un poisson dans l'eau, situant les corps dans un espace épuré, froid, mais surtout évocateur, principalement grâce à l'exceptionnelle conception d'éclairage de Julie Basse et Étienne Boucher, le metteur en scène donne naissance à des moments d'apesanteur qui transcendent admirablement le huis clos. S'imposent alors les lignes de force, cette lutte impitoyable entre la cruauté et la vulnérabilité, le bourreau et la victime, le besoin de détruire et celui d'aimer, puis, en fin de compte, l'espoir d'une forme de réparation. Sous la plume de Caroline de Baudinat, le quotidien français Libération consacrait lundi un long article à la comédienne Suzanne Clément qui enfile les tournages cinématographiques et s'apprête à aménager dans le 11e arrondissement de Paris. Après Le sens de la fête récemment sorti au Québec, les cinéphiles français peuvent maintenant voir la comédienne dans Le rire de ma mère, premier long métrage de Pascal Ralit et Colombe Savignac. Elle y défend le rôle féminin principal aux côtés de Pascal Demolon. Et selon Allociné, la critique est en général fort élogieuse. Sous le titre « Suzanne Clément, elle déménage », l'article revient sur sa première rencontre avec Xavier Dolan, sur ses premiers pas dans une série télé à 12 ans, son enfance à Boucherville et le fait qu'elle n'aime pas parler de ses amours ou de sa vie privée. « Je suis restée assez proche, en moins sage, de l'enfant que j'étais », dit-elle dans l'entrevue. « Je suis confiante envers l'autre, plus que fermée. » Mais que je donne l'image de quelqu'un d'accessible ne signifie pas pour autant que je le suis. Les longs métrages La résurrection d'Hassan par Carlo Guillermo Proto, Le problème d'infiltration réalisé par Robert Morin, Les affamés, Robin Aubert, Mes nuits feront écho, Sophie Goyette et Tadoussac de Martin Laroche, sont les finalistes de la 7e édition du prix collégial du cinéma québécois. Créé pour inciter les jeunes à voir davantage de cinéma québécois, ce prix permet aussi à des centaines de jeunes de débattre de la qualité de chaque film au cours de rencontres tenues dans 53 cégeps, puis dans un forum national. Fidèle à l'événement depuis ses débuts, la comédienne et cinéaste Micheline Langteau en sera de nouveau la marraine. La sélection des 5 films finalistes est d'abord faite par un comité d'experts. Le film lauréat sera dévoilé le 24 mars. Le chiffre du jour, c'est dans la presse, 1000. Depuis son lancement en 2004, le Wapikoni Mobile, le studio ambulant de formation et de création audiovisuelle, a accueilli plus de 4500 participants de 25 nations autochtones du Canada et d'ailleurs. À la suite de cet immense travail, on compte une collection d'œuvres qui dépasse maintenant les 1000 titres, a fait savoir l'organisme cette semaine. Pour célébrer l'événement, le Wapikoni mettra en ligne sur sa page Facebook chaque mardi jusqu'au 17 avril une sélection de films issus des ateliers. Le quotidien britannique The Guardian vient de faire une grosse prise. L'écrivaine italienne Elena Ferrante, un pseudonyme, tiendra une chronique hebdomadaire dans le cahier week-end du journal. On dit que l'auteur de L'Amie prodigieuse abordera un vaste éventail de sujets d'un point de vue personnel. La sexualité, le vieillissement et pour sa première collaboration, le premier amour. Ses chroniques rédigées en italien seront traduites par sa traductrice habituelle Anne Goldstein. Rappelons que depuis lundi, The Guardian a subi une importante refonte graphique en plus de passer du format berlinois au format tabloïd. L'auteur britannique Peter Mayle, dont le déménagement en France au mi-temps de sa vie lui a inspiré le livre à succès « Une année en Provence », est mort hier à l'âge de 78 ans. Le publicitaire devenu écrivain s'est éteint dans son pays d'adoption qui a si souvent servi de décor à ses livres. Dans un portrait publié en 2007, Sonia Sarfati racontait la réaction peu enthousiaste de l'éditeur devant le premier livre de Peter Mayle. « Nous en imprimerons 3000 exemplaires. Il y aura certainement des retours. Je te ferai un bon prix si tu veux en acheter des copies avant que j'envoie le reste au pilonnage. » Le récit « Une année en Provence » s'est vendu à des millions d'exemplaires en plus d'une dizaine de langues depuis sa sortie en 1989. Lancé en 2004, son roman « A Good Year » a été adapté au cinéma 2 ans plus tard par Ridley Scott. Bientôt un album, 2 ans après son premier album de chansons originales « Lis-moi loup », Safia Nolin a enfin un nouveau bouquet de chansons en main, point de suspension, pas plus joyeuse que dans le premier. Elle entre en studio le mois prochain pour enregistrer des chansons de plus en plus tristes qui devraient être lancées l'automne prochain. Avec « Reprise », volume 1, il s'agira du 3e album de la chanteuse. Il sera co-réalisé par elle-même, son complice de longue date et guitariste Joseph Marchand, ainsi que le réalisateur de Limoilou, Philippe Brault. « Je peaufine mes trucs en ce moment et ensuite je pars enregistrer », confirme-t-elle. Ses chansons sont inspirées de sa vie des 2 dernières années, du tumulte et des sentiments contradictoires qu'elle a vécu. C'est difficile à vivre et c'est difficile de se confier quand ça va mal parce que les gens disent que tu es donc bien chanceuse de vivre tout ça. C'est plein d'émotions étranges et j'ai puisé là-dedans. Il y a un peu plus d'un an, Safia Nolin était allée en résidence d'écriture à Banff, en Alberta, dans un centre d'art. De là, j'ai écrit beaucoup de chansons. L'album « Lis-moi loup » a connu un beau succès et lui a ouvert les portes de l'industrie. De quoi mettre un stress supplémentaire sur la création. C'est sûr que oui, j'ai de la pression, même si je pense que je n'en ai pas. Mais j'essaie de me détacher de ça et de faire de la musique pour moi, encore une fois, et ne pas avoir d'attente quand je vais le sortir. L'album devrait être lancé cet automne et on vous offre un extrait de son album Reprise, volume 1. Avec les Sœurs Boulay, c'est bien cela, Mathieu?
Les Chats Sauvages.
Ah, les Chats Sauvages! Elle chante la chanson seule? Oui?
Je vais vérifier.
D'accord, bon, on va l'écouter. Oui.
pêcheurs sauvages. Pas plus qu'on met en cage les oiseaux de la terre. Faut les laisser aller comme on les laisse venir au monde. Faut surtout les aimer, jamais chercher à les garder. Tout doucement, je veux voyager. Jasant d'amour et de liberté, on n'emprisonne pas les cœurs volages, pas plus qu'on coupe les ailes aux oiseaux de la terre. Faut les laisser aller toujours sans chercher à comprendre. Marche seul et non qu'un seul langage, celui de l'amour, celui de la vie. Il chante pour toi si t'en as envie.
C'est une très belle chanson. C'était pas celle que je voulais jouer. C'était évidemment les Sœurs Boulay qui nous chantaient Les Chats Sauvages. Dans mon empressement, évidemment, je me suis gouré. Mais la semaine prochaine, on vous garantit qu'on va vous faire jouer le duo des Sœurs Boulay avec Safia Nolin.
Oui, alors c'est ça. Hein, c'est un autre succès des années 90. Puis c'était très agréable. Mais la semaine prochaine, c'est L'Ombre et la Lumière. Hein, c'est la chanson de Marie-Carmen.
Je pense que oui, mais là, je ne m'avance plus avant de...
Oui, mais j'ai fait une vérification, puis je peux vous le confirmer.
Vous êtes bien aimable.
Alors Mathieu, on va écouter ça avec vous jeudi ou vendredi prochain.
Exact. OK.
Il faut le retenir, là.
Oui, je vais l'écrire.
Alors, c'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, des dizaines d'enfants réfugiés ont besoin d'effets secondaires pour amorcer ce segment libre. Leur famille compte sur des bénévoles pour fournir sacs, crayons et manteaux. Les deux plus grosses commissions scolaires de Montréal doivent mettre les bouchées doubles depuis deux semaines pour accueillir des centaines d'enfants de demandeurs d'asile fraîchement arrivés au Québec. C'est une année scolaire exceptionnelle en termes de nombre, révèle Alain Perron, porte-parole de la commission scolaire de Montréal, où 3707 élèves migrants ont été accueillis depuis septembre, dont 270 en janvier. C'est 1200 de plus que l'année scolaire précédente. Selon lui, cette affluence peut entraîner des délais de quelques jours avant que les nouveaux élèves puissent intégrer les classes. Même son de cloche du côté de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, qui compte 439 nouveaux enfants migrants depuis septembre, dont une quinzaine en janvier. Sa porte-parole, Gina Guillemette, parle d'une année record. Le gouvernement fédéral dit avoir traité plus de 22 000 demandes d'asile au Québec en 2017, soit au moins quatre fois plus qu'en 2016. Plusieurs de ces familles n'ont pas les moyens d'acheter les effets secondaires et habits de neige à leurs enfants. Un triste constat qui a poussé l'enseignante Rachel Schugart et d'autres bénévoles à lancer un cri du cœur sur les réseaux sociaux la semaine dernière afin de trouver des fournitures usagées ou neuves. L'aide n'a pas tardé. En une semaine, l'appartement de Mme Schugart dans le quartier Parc Extension s'est transformé en quartier général et lieu de collecte de dons. Le salon fait office de mini-entrepôt, cartable au sol, boîte de tuques et de mitaines, manteaux d'hiver sur le sofa et crayons neufs sur la petite table. Mon mari trouve que le salon est très encombré, lance-t-elle en riant. Je ne sais pas quand tout ça prendra fin. Jusqu'à présent, la bénévole et ses acolytes ont remis 50 sacs d'école ainsi que des habits de neige. Néanmoins, la liste ne cesse de s'allonger. J'ai reçu plusieurs messages de parents sans ressources. Une centaine d'enfants ont besoin de fournitures. Trois gamins n'ont pas de pantalon de neige et avec ce froid, ils ne peuvent pas sortir dehors, explique l'enseignante qui partage son temps entre la maison, l'école et le bénévolat. Nous avons appris par les médias, entre autres, qu'il y a des citoyens et du personnel qui mettent sur pied des collectes. C'est un très beau geste de solidarité, souligne Gina Guillemette. Plus souvent qu'à son tour, Mme Schugart doit se déplacer avec sa petite voiture pour collecter et distribuer les dons, en suivant une liste détaillée des besoins de chaque famille. Dans les petits appartements peu meublés où elle est entrée en compagnie du Journal de Montréal, elle était accueillie comme une reine, accolade, sourire, bec sur les joues et remerciements à la tonne. Les parents et les enfants se confiaient à elle comme à une vieille amie. C'est difficile de repartir de zéro. Mais les gens d'ici sont formidables, dit en anglais Lola, une Nigériane qui a vécu aux États-Unis avant de traverser la frontière canadienne à la fin novembre avec sa famille. Les Québécois veulent qu'on se sente comme chez nous, et de notre côté, on veut s'intégrer rapidement. Parler français et se trouver du travail, c'est important, ajoute-t-elle. Florence Olabizi est dans la même situation que Lola. Elle est arrivée au Canada avec son mari et ses deux enfants il y a trois mois. Sa gratitude se lit sur son visage lorsque ses deux enfants essaient manteaux, tuques et foulards. Ils vont pouvoir commencer l'école comme tous les autres. « Que Dieu bénisse les Canadiens », lance-t-elle avant de serrer chaleureusement la main de Mme Schugart. Ici et là, c'est le cahier week-end du devoir, des suggestions de sortie pour la fin de semaine. On vous parlait jeudi de la blogueuse française Emma de passage au Québec, alors que paraît tout juste le deuxième tome de sa série BD « Un autre regard ». Si son concept de charge mentale vous intéresse, elle discutera de cela et d'autres thèmes abordés sur son blog et dans ses dessins. Maternité, féminisme, travail, société, à la librairie Le Port de Tête, qui organise une discussion publique avec la dessinatrice. Marie-Lise Hamelin, elle-même auteure de l'essai « Maternité, la face cachée du sexisme », fera l'animation. Comme il y aura sans doute bien du monde, il est impératif d'arriver tôt. C'est aujourd'hui de 18h à 20h30 au 269 avenue du Mont-Royal-Est, entrée libre, avec collation. Enfin, il fait plus doux. Voilà un cadre de choix pour profiter de la neige fraîche au Parc national des îles de Boucherville qui ouvre à la randonnée des sentiers illuminés à la lanterne, des sentiers de 2 km idéal pour les familles et de 4 km. On peut partir seul avec ses raquettes ou moyennant un supplément en visite guidée avec un garde-parc naturaliste qui expliquera comment la faune se prépare à l'hiver. Les enfants pourront, eux, enquêter pour découvrir qui a bien pu manger le nez de ce pauvre bonhomme hiver. Les samedis 20 janvier, 3, 10 et 24 février, ainsi que le 3 mars entre 16h et 20h au 55 Île Sainte-Marguerite à Boucherville. Adultes, 8,50 $ accès au parc, 12 $ pour la randonnée. Comptez 5 $ par activité supplémentaire. Tout est gratuit pour les 17 ans et moins. De samedi au 11 février, la Fête des neiges de Montréal bat son plein tous les samedis de 10h à 20h et tous les dimanches de 10h à 17h. On pourra célébrer les joies de l'hiver en montant à bord d'un bateau de glace, en faisant le grand saut, en nous initiant au traîneau à chiens, en voyant des animations hors du commun. On assistera, dis-je bien, à plusieurs spectacles, dont celui d'Annie Broccoli, demain, 14h, Alex Gaudreau, samedi, 14h aussi, de Sylvain Tremblay et Georges Papafilis dimanche pendant l'après-midi. Plus d'une vingtaine d'activités pour toute la famille. On vous invite à consulter le site pour les horaires et l'acropasse www.parquejeandrapeau.com. Et je termine avec jusqu'au 3 février, les jeudis de 19h à 23h et les vendredis et les samedis de 19h30 à minuit 30, les amateurs de musique électronique et de lumière s'en donneront à cœur joie au quai Jacques-Cartier. C'est l'Igloo Fest dans le Vieux-Montréal. Je vous invite à profiter de cette fin de semaine qui s'annonce très douce. Pas beaucoup de soleil, mais des températures très agréables pour mettre le nez dehors et même plus. Alors, ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Puis merci Mathieu Tessier à la régie, au choix musical, et puis on se reprend avec Safia Nolin en duo avec les Sœurs Boulay la semaine prochaine. C'est promis! Bon week-end à tous!